Bonjour et bienvenue dans Sens 1, Sens 2, le podcast de l'actualité de Vinci Autoroute. Dans le jargon autoroutier, le sens 1 et le sens 2 désignent la direction, le sens. Du sens, il en sera, je l'espère, question dans ce podcast où je vous emmène découvrir les coulisses de notre entreprise. Je suis Vincent Mazoué et pour ce nouvel épisode, nous mettons le cap à l'est de la France, direction l'Alsace et la nouvelle autoroute A355, le contournement ouest de Strasbourg. C'est un projet attendu depuis longtemps par le territoire. L'histoire et la genèse de l'autoroute A355, je vous la raconterai bientôt dans un autre podcast Rétro-autoroute. Aujourd'hui, dans Sens 1, Sens 2, nous allons nous intéresser à cette nouvelle infrastructure, à son tracé, mais aussi à sa construction et à ses innovations, car vous le verrez, elles sont nombreuses, en matière d'environnement notamment. Dans cet épisode, vous entendrez
Marc Bourron, président d'Arcos, la société concessionnaire qui est chargée du financement, de la construction et de l'exploitation de la nouvelle autoroute A355.
Antoine Goubert, responsable d'exploitation de Vinci Autoroute Alsace.
André Griebel, je suis le directeur de projet du groupement en charge de la conception et construction du contournement ouest de Strasbourg.
Je suis Arnaud Guillemin et je suis responsable environnement pour Arcos.
Je m'appelle Julie Fletz et je suis doctorante au CNRS de Strasbourg et je réalise une thèse qui est cofinancée par Vinci Autoroute.
Grâce à leurs éclairages, nous allons tenter de comprendre pourquoi la 355 est une autoroute de nouvelle génération. Pour commencer, il faut comprendre le contexte dans lequel s'inscrit la nécessité d'une nouvelle autoroute à Strasbourg. La construction de l'A355 est en fait la première brique d'une refonte plus globale des mobilités dans l'agglomération. C'est ce que nous explique Marc Bourron, le président d'Arcos.
L'autoroute A355 va accueillir le trafic de transit qui circule actuellement sur l'autoroute existante, nouvellement appelée M35. Et donc cette M35 est régulièrement bouchonnée. Et donc en captant le trafic de transit sur la nouvelle autoroute, nous allons pouvoir diminuer le nombre de bouchons et faire gagner du temps précieux à l'ensemble des usagers. C'est une diminution de la congestion et ce qui va permettre de mettre en œuvre des mesures de lutte contre l'autosolisme ou de favoriser les transports en commun avec, par exemple, l'installation de voies déliées sur la M35.
Concernant les nuisances sonores, concernant la pollution, est-ce qu'on peut imaginer du coup un effet aussi direct pour les riverains de Strasbourg ?
Alors oui, évidemment, l'autoroute A355, en captant notamment le trafic de transit, va diminuer la congestion sur l'autoroute existante. C'est plus de sécurité routière, c'est moins de bruit pour les habitants qui habitent à proximité de cette autoroute existante, et c'est évidemment une baisse de l'exposition des populations en matière de pollution routière. Il faut comprendre que l'arrivée de la 355, c'est 10 millions d'heures qui seront gagnés par l'ensemble des usagers de la zone, à la fois ceux qui vont emprunter cette nouvelle itinéraire nord-sud à haut niveau de service, et également ceux qui vont rester sur l'autoroute existante et qui vont gagner également du temps.
10 millions d'heures gagnées par an, un gain de temps considérable pour tous les usagers amenés à se déplacer dans ce secteur. Pour comprendre où va passer cette autoroute à deux fois deux voies, je me suis rendu à Ittenheim, une petite commune située à 10 km environ à l'ouest de Strasbourg. C'est là que se situe le centre d'exploitation de l'autoroute A355. Ici, nous sommes pile au milieu du tracé.
C'est un tracé qui fait 24 km.
Antoine Goubert, responsable d'exploitation Vinci Autoroute en Alsace.
Et donc notre contournement qui va des communes de Ittenheim au sud jusqu'à Vendenheim au nord. On a différentes entrées et sorties. On a évidemment d'abord les deux extrémités, donc une extrémité sud avec une bifurcation autoroutière entre différents axes comme l'A35 qui vient de Colmar ou l'A352 de Molsheim ou la M35 depuis Strasbourg. L'extrémité tout au nord où on retrouve différents gestionnaires de réseau et notamment la SANEF ou la collectivité européenne d'Alsace. Donc pour ceux qui arrivent de Paris, Metz, Nancy ou d'Allemagne avec Karlsruhe. Et on a ensuite sur le tracé deux diffuseurs, donc porte d'entrée, porte de sortie. Donc une première porte qui est ici à Ittenheim pour la liaison avec la RD 1004, et ensuite au niveau de Düttlenheim où on a un accès notamment pour l'aire de service de la Bruche.
Ces 10 dernières années, d'autres autoroutes ont vu le jour. Le prolongement de l'A19 entre Courtenay et Artenay en 2009, le bouclage de l'A89 à l'est en 2013, le contournement de Montpellier grâce au déplacement de l'A9, c'était en 2017, et donc aujourd'hui, l'A355 à l'ouest de Strasbourg.
Ce qui me pousse à me poser une question. Construit-on une autoroute aujourd'hui comme on le faisait il y a 10, 30 ou 50 ans? André Gribel, directeur du projet de l'A355 chez Vinci Construction.
La conscience qu'une telle infrastructure doit apporter des réponses plus que favorables, mais bénéfiques, positives pour l'environnement, était vraiment au cœur de nos préoccupations. Autrement dit, ce qui a clairement changé sur le projet à Strasbourg, c'est la manière dont il faut aborder les enjeux environnementaux jusqu'au point où même la construction même du projet a été impactée par la mise en place, notamment des mesures de compensation. Ce qui est vraiment inédit, c'est la prise en compte de l'environnement tout au long du projet, que ce soit avant les travaux, pendant les travaux, et pendant l'exploitation, avec notamment des compensations largement à la hauteur des exigences qui sont aujourd'hui requises à travers de la doctrine environnementale, ce qui est donc inédite et une réponse très concrète en fait à la demande de considérer l'environnement comme un enjeu majeur pour la réalisation d'une telle infrastructure et surtout la recherche que l'impact sur la biodiversité ne soit pas une perte, mais un véritable gain.
Sur un projet couvrant une surface d'environ 300 hectares, les mesures de compensation environnementale ont été déployées sur un périmètre de 1315 hectares. Pour bien comprendre, je me suis rendu sur le site de Dachstein, au sud du tracé. Je retrouve Arnaud Guillemin, responsable environnement chez Vinci Autoroute. En marge de la construction de l'A355 qui passe tout près, cette parcelle de 17 hectares a été renaturée. On appelle cela un site de compensation.
Une mesure de compensation, c'est un site que l'on vient recréer pour compenser des impacts que la construction de l'autoroute aurait générés. C'est-à-dire que en construisant l'autoroute, on vient apporter des impacts, générer des impacts sur un milieu, par exemple une prairie, une forêt, et on vient recréer ce site à proximité immédiate pour compenser ces impacts-là.
On compense, mais on améliore aussi, c'est ça?
En compensant, forcément, on vient améliorer, puisqu'on vient recréer, restaurer un site qui était dégradé. On vise à l'amélioration du site.
Alors concrètement, on a fait quoi ici?
Sur le site de Dachstein, on a effacé la monoculture intensive de maïs, c'est-à-dire qu'on a détruit le précédent cultural en réaménageant le sol. On a ensemencé une prairie de type milieu humide. On a reméandré un ancien cours d'eau, donc c'est-à-dire qu'on lui a redonné des courbes et des sinuosités par rapport à son tracé rectiligne initial. Et on a créé différents étages de végétation avec différentes petites mares pour redonner un petit peu un gradient d'humidité dans le site. Toutes ces aménagements ont pour but d'améliorer la biodiversité du site, de transformer une mesure de monoculture intensive, de créer une compensation et aussi d'attirer différents individus comme l'agrion de mercure, donc une petite libellule, ou pourquoi pas des espèces d'oiseaux que l'on pourrait avoir. Par exemple ici, on suspecte d'avoir une espèce d'oiseau qui est le courlis cendré, qui est un petit oiseau qui est assez rare en Alsace et qui pourrait venir nicher sur notre site.
Un peu plus loin, nous nous arrêtons sur un pont qui enjambe l'autoroute. Il y en a plusieurs comme celui-ci sur la 355. Ce sont des passages à faune qui permettent aux animaux de traverser en toute sécurité.
Quand on construit une autoroute, on pense à la séquence ERC, éviter, réduire, compenser. Donc on essaie d'éviter d'avoir des impacts sur le milieu. Si on n'arrive pas à éviter, on essaie de réduire nos impacts. Et ce qu'on n'arrive pas à réduire, on les compense. Ici, on est dans la séquence avec le R, donc le réduction. Et c'est-à-dire qu'on est au-dessus de l'autoroute sur un ouvrage faune, donc un passage pour les animaux que l'on construit pour pouvoir faire transiter les animaux de part et d'autre de l'autoroute à 355.
Alors quel type d'animaux passent par ici?
Sur ce passage, on est sur un passage grande faune, donc on vise essentiellement tout ce qui est cerf, chevreuil et sanglier. Mais aussi forcément, si la grande faune passe, on a aussi tout le cortège de la petite faune, donc fouine, marde, belette, et évidemment tout ce qui est papillons, oiseaux, petits individus qui pourront éventuellement venir nicher sur cet aménagement.
Donc ça, c'est un passage au-dessus de l'autoroute, il y en a aussi en dessous.
Sur la diversité de passages, on a des passages inférieurs donc qui passent en dessous, des passages supérieurs qui passent au-dessus. On a aussi des passages qui passent en latéral, donc le long de l'autoroute. Et petite spécificité ici, c'est qu'on a aussi des passages spécifiques pour les hamsters, qu'on appelle des hamsteroducs, qui sont équipés pour que le hamster puisse se déplacer en sécurité sans être prédaté. Sur l'autoroute A355, on a 130 passages pour les animaux,
Alors, si on fait un petit ratio, 130 passages sur 24 km, c'est-à-dire qu'on a un ouvrage de franchissement pour les animaux, quoi, à peu près tous les 212 mètres. Et donc, on peut dire que l'autoroute est transparente en termes de biodiversité et en termes de passage pour les animaux, quoi.
Alors, on est même passé tout à l'heure devant un drôle de panneau. C'est un passage qui facilite, vous me disiez, les martins pêcheurs.
Oui, sur le viaduc de la Bruche, on a des traversées de martins pêcheurs qui se déplacent en survolant l'eau, quoi. Et pour leur faire prendre un petit peu de hauteur, pour traverser en toute sécurité au-dessus de l'autoroute, nous avons installé des écrans à martins pêcheurs. Donc ça leur permet en fait de survoler très haut, quoi, l'autoroute. Ce type d'aménagement, on le retrouve un petit peu partout sur la section, sur l'autoroute. C'est ce qu'on appelle des haies d'envol. Ça permet en fait aux animaux de survoler à une grande hauteur l'autoroute pour la traverser en toute sécurité.
Des haies pour permettre aux oiseaux de voler haut et, vous l'avez entendu, des passages pour le grand hamster d'Alsace. Dans la région, cette ravissante boule de poils est l'objet de toutes les attentions. L'espèce ne vit qu'ici et elle est en danger critique d'extinction à cause notamment de l'urbanisation, des pratiques agricoles ou encore du changement climatique. Pour le grand hamster aussi, des mesures compensatoires ont été prises. Il s'agit de renforcer les populations. C'est le travail de Julie Fletz, doctorante au CNRS, que je retrouve à Ernolsheim, non loin du viaduc de la Bruche.
Là, on se trouve sur une parcelle sur laquelle des hamsters ont été lâchés au mois de juin. Donc, c'est des hamsters qui sont issus de la captivité, qui sont nés et qui ont été élevés pendant un an en captivité avant d'être lâchés sur ces sites où il y a des mesures mises en place pour favoriser l'habitat du hamster et faire qu'il puisse survivre suffisamment longtemps pour produire une seconde génération en captivité. Enfin, une première génération, pardon, dans le milieu naturel.
Comment vous les avez relâchés, en fait ?
On relâche les animaux dans des terriers artificiels qui sont creusés dans le sol. Soit ils aménagent le terrier artificiel, soit ils vont aller en creuser un autre. Et voilà.
Comment vous assurez, en fait, comment vous les surveillez, comment vous assurez le suivi des espèces que vous avez relâchées?
Il y a deux comptages qui sont réalisés par an. Le premier comptage, c'est un comptage au printemps, donc quand les animaux sortent d'hibernation. Donc là, on compte le nombre de terriers. Donc on compte pas directement les hamsters parce qu'on les voit pas, c'est une espèce nocturne. Et après, il y a un autre comptage en septembre. Là, c'est pour estimer aussi la survie des animaux qui ont été lâchés au printemps.
Depuis que vous avez commencé ce travail, il y a déjà des retours, des enseignements que vous avez pu tirer de ces observations?
On sait que les animaux qui sont issus de la captivité ont des difficultés à s'adapter à un nouvel environnement. Donc c'est là que mon travail de thèse intervient. On essaye de trouver des méthodes pour améliorer, entre guillemets, la qualité des hamsters qu'on relâche et surtout essayer de faire qu'ils arrivent à survivre plus longtemps et survivre jusqu'à ce qu'ils arrivent à se reproduire au moins une première fois dans le milieu naturel. Pour ça, donc on a développé, on a eu plusieurs idées et une des idées, c'était, avant de relâcher les animaux définitivement dans le milieu naturel, de les faire passer par un milieu semi-naturel dans lequel ils peuvent s'adapter. Ils sont donc dans des conditions climatiques normales, naturelles, on va dire. Ils connaissent autre chose que juste leur petite cage d'animalerie. Ils peuvent chercher leur nourriture. Ils n'ont pas un accès direct à l'eau, etc. Et donc on pense que le fait que ces animaux passent par un milieu semi-naturel avant de passer direct dans le milieu naturel, ça leur permet de s'adapter progressivement. Et une fois qu'ils vont être lâchés, bah, ils vont utiliser un abri plus rapidement s'il y a un prédateur, par exemple. Ils vont être en mesure de trouver une nourriture plus diversifiée, et donc de survivre plus longtemps, d'avoir des petits dans le milieu naturel et voilà, que les populations soient renforcées de façon efficace et que surtout elles se maintiennent dans le temps.
Relâcher des hamsters, repeupler, c'est aussi donner sa chance à d'autres populations. En termes de biodiversité, c'est un cercle vertueux.
C'est ça, en fait, le hamster est considéré comme ce qu'on appelle une espèce parapluie. Donc, en fait, préserver le hamster, ça permet de préserver beaucoup d'autres espèces qui partagent le même milieu de vie. Donc, ça a des répercussions sur la biodiversité en général.
9 déplacements sur 10 se font toujours par la route. L'enjeu dans les années à venir est donc la décarbonation des transports routiers. Les autoroutes doivent devenir partie intégrante des mobilités bas carbone au quotidien. Sur le contournement ouest de Strasbourg, il sera possible de recharger son véhicule électrique sur l'aire de service de la Bruche, accessible depuis l'autoroute. Antoine Goubert.
L'aire de service est effectivement située donc sur la portion sud du tracé, avec un accès complètement autonome depuis l'extérieur de l'autoroute ou en passant par l'autoroute, et qui proposera donc différents services tels que la restauration, le carburant et des bornes de recharge électrique.
C'est-à-dire qu'on pourra rouler sereinement en véhicule électrique sur la 355.
On a effectivement prévu des bornes de recharge électriques. Donc tout d'abord sur l'aire de service avec 8 places disponibles et notamment avec des bornes de recharge très rapides avec 300 kW. Et on a ensuite ici à Ittenheim sur un parking multimodal également deux places de recharge électrique avec des bornes de 7 kW.
Vous allez rouler au centre d'exploitation. En tout cas, les hommes, les femmes en jaune vont réaliser leur mission à bord de véhicules propre, et ça c'est une particularité hein, ici, c'est bien ça?
En fait, c'est un fort enjeu, une forte ambition environnementale que porte aujourd'hui Vinci Autoroute au niveau national. Effectivement, ici, chez Vinci Autoroute Alsace, nous avons pris le choix d'équiper nos services de véhicules propres. Donc, il y avait tout d'abord une flotte de véhicules légers qui sera 100% électrique, donc aujourd'hui des Renault Zoé, et avec des fourgons qui vont rouler avec du carburant GNV, donc gaz naturel pour véhicules, et avec lesquels nous réaliserons 90% des kilomètres parcourus.
L'objectif dans ce projet était aussi d'intégrer l'autoroute dans son environnement, en tenant compte par exemple des problématiques liées au bruit. Des aménagements spécifiques ont notamment été prévus pour les habitants de Vandenheim, une commune située au nord de la 355. Antoine Goubert.
Effectivement, ce projet, pour s'inscrire dans le territoire et dans l'environnement qu'il traverse, nécessite évidemment des adaptations. On a tout d'abord des adaptations pour l'environnement. Donc on a créé des ouvrages très spécifiques comme les deux viaducs. On a dû faire des adaptations pour le niveau de bruit et donc l'acoustique. Et donc on a notamment un ouvrage très spécifique qu'on appelle un ouvrage d'art non courant, qui est une tranchée couverte. Donc l'autoroute passe sous terre et on est venu compléter notamment ce dispositif avec environ 5 km de murs anti-bruit le long du tracé. Et on a ensuite de l'enrobé sur quelques kilomètres de l'autoroute qui a une particularité assez spécifique qu'on appelle l'enrobé phonique, qui permet également de réduire le bruit issu des clients qui roulent sur cet enrobé.
L'autoroute doit avoir une transparence hydraulique, c'est-à-dire permettre aux eaux de s'écouler librement sans retenue à travers l'autoroute. Les ouvrages de l'A355 ont été dimensionnés pour que le cours d'eau puisse franchir l'autoroute sans aucune contrainte jusqu'à une crue centennale. André Grivel.
De manière générale, pour ce qui concerne l'assainissement, nous récoltons en fait sur la plateforme autoroutière les eaux pour les amener de manière tout à fait transparente et intégrale dans des bassins où là, on stocke les eaux, on les traite avant de les rejeter en fait dans le milieu naturel. Nous avons créé une combinaison relativement mixte entre une capacité certaine des bassins pour prendre en compte une grosse partie de l'eau, mais en plus, nous avons réalisé de part et d'autre des cours d'eau, des zones de compensation hydraulique supplémentaires, ce qui permet que même pour un événement orageux qui s'abat sur le territoire en amont, que ça soit ces zones de compensation hydraulique qui apportent un véritable plus pour notamment les communes en aval, puisque dans ces zones-là, on peut également stocker les eaux qui ne s'abattent pas forcément sur l'autoroute proprement dite, mais sur le territoire situé en amont.
Des mesures de compensation environnementale sans précédent, un axe qui s'inscrit dans son paysage, mais ce qui fait de l'A355 une autoroute de nouvelle génération, ce sont aussi plusieurs innovations en matière d'exploitation, mais aussi de sécurité.
Alors, l'autoroute A355 est effectivement une autoroute de nouvelle génération.
Marc Bourron.
L'autoroute est 5 fois plus sûre que le reste du réseau routier. Et cette autoroute va évidemment prendre les dernières normes en vigueur en matière de sécurité. Mais nous avons mis en place un système entièrement connecté avec la mise en place de vidéosurveillance sur la totalité du tracé, ce qui nous permet d'être beaucoup plus réactifs en cas de problème sur autoroute. Par ailleurs, nous innovons en mettant en place un dispositif anti-contresens. C'est des caméras spécifiques qui détectent les contresens et l'exploitant est alerté immédiatement pour intervenir.
Enfin, favoriser l'économie circulaire, lutter contre le changement climatique et préserver les milieux naturels, tels sont les objectifs du groupe Vinci à l'horizon 2030 en matière d'environnement. Là aussi, le cahier des charges est respecté en ce qui concerne le contournement ouest de Strasbourg. Marc Bourron.
Ce nouveau projet s'inscrit parfaitement dans l'ambition environnementale 2030 de Vinci, puisque, par exemple, en phase construction, nous avons mis en œuvre un système de terrassement qui permet de limiter l'utilisation de matériaux extérieurs. Donc, c'est en plein dans l'ambition environnementale 2030 en ce qui concerne l'économie circulaire. Par ailleurs, nous mettons en œuvre des enrobés avec 50% de recyclage de matériaux. Et enfin, en phase d'exploitation, là aussi, nous diminuons nos émissions de CO2 CO2 avec une flotte décarbonée pour l'exploitant autoroutier. Et nous mettons en œuvre des dispositifs en matière de préservation de l'environnement sur cette autoroute, à la fois en phase construction, mais également pendant les 50 ans d'exploitation qui vont suivre.
Merci beaucoup Marc Bourron.
Merci à vous.
Merci à Julie Fletz, à Marc Bourron, à André Gribel, à Antoine Goubert et à Arnaud Guillemin d'avoir participé à ce podcast. Ne manquez pas prochainement l'épisode de Rétro Autoroute qui reviendra cette fois sur l'histoire de la 355. Retrouvez d'autres podcasts et toute l'actualité de Vinci Autoroute sur notre site www.vinci-autoroute.com.